Donc nous allons conclure aujourd'hui la série sur l'Épître aux Romains, les 8 premiers chapitres. Vous dites peut-être, ah ça y est, on est arrivé à la fin. Oui, on est arrivé à la fin, du moins à la fin de ce que j'avais à cœur de partager. Alors ça ne veut pas dire que on ait fait le tour de l'Épître aux Romains, les 8 premiers chapitres, loin de là. Et vous pouvez y revenir et on va y revenir un petit peu encore aujourd'hui. On va s'arrêter sur le dernier verset, un petit peu comme une conclusion. Et là, je ne sais pas si c'est peut-être un peu petit, vous voyez. Je vais lire quelques versets pour remettre un petit peu en mémoire. Je n'ai pas honte de l'évangile, Romains chapitre 1 verset 16, c'est la puissance de Dieu, et vous connaissez la suite, pour le salut de quiconque croit. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On avait longuement regardé que tous les hommes sont sous l'empire du péché, c'est la conclusion de Paul quand il arrive au chapitre 3, verset 9, 10, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, heureusement, au verset 23 et 25. Je lis dans la traduction « Parole de vie ». « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ ». Qui les libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées, l'expérience de David, le pardon des péchés, la joie et le bonheur que cela procure. Verset 5 du chapitre 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand il va parler de nous, dans les versets suivants, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont converti, qui ont placé leur confiance en Jésus, qui ont cru dans le sacrifice expiatoire et qui ont reçu le pardon de leurs fautes. 6, chapitre 6. Par le baptême, nous avons été plongés en lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. Une même plante, utilise l'apôtre Paul ici comme illustration. Nous sommes une même plante avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenez bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Chapitre 7, versets 5 et 6. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps. Et le résultat, c'était la mort. Mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Alors, nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle en obéissant à l'Esprit Saint. Et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois en obéissant à la loi de Moïse. Chapitre 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, j'ai mis entre parenthèses rien, mais en fait plusieurs versets. L'apôtre dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les choses qui sont liées à notre nature propre, ni l'opposition qu'on peut rencontrer par rapport à notre foi, ni tout ce qui peut nous dépasser, qui est au-dessus de nous. Dieu a un plan et il le mènera à bonne exécution. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ce dont nous allons réfléchir ensemble maintenant. Alors dans ce rien, il y a le mot séparer. Rien ne pourra nous séparer. Le mot séparer. Être séparé, c'est l'idée de partir. De partir dans un autre pays, dans une autre région. Hein? Marie est là, elle est pour quelque temps séparée de son papa et de sa maman. Mais elle n'est pas pour autant séparée de son amour. Hein, l'amour de son papa et de sa maman sont là et il l'aime et elle le sait. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ce mot séparé a aussi un sens qui peut être plus fort parce que des fois il y a des cassures et des ruptures. Et il y a une terrible séparation qui a eu lieu, vous savez, autrefois quand Adam et Ève étaient dans le paradis, le péché est arrivé et les a séparés de Dieu. Et là, il est arrivé des choses terribles, comme la peur, comme ils avaient peur, ils avaient honte, ils se sont cachés, ils ont fait des ceintures. Et puis, ils avaient le sentiment de culpabilité. La peur, la honte, la culpabilité sont ceux qui sont attachés à la nature humaine et avec lesquels les hommes luttent plus ou moins consciemment. Et dans ce rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que l'œuvre qu'a fait Jésus-Christ à la croix, eh bien, cette séparation qui a eu lieu il y a bien longtemps avec Jésus-Christ n'aura plus jamais lieu. Grâce à son sacrifice à la croix, le Fils de Dieu a acquis que cette séparation ne serait plus. La réconciliation est totale, complète et définitive. Séparer, c'est la rupture d'une union. Rien ne pourra nous séparer. Et là, on retrouve le mot séparer toujours illustré par cette question du mariage. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qui d'entre nous a connu le divorce? Qui d'entre nous s'est approché de personnes qui étaient en situation de divorce? Ce sont des situations qui sont excessivement douloureuses. Et ce n'est pas surprenant, parce que la parole de Dieu, vous le savez, dit que lorsqu'un homme et une femme se marient, leur union, ils deviennent même chair. Et donc, étant même chair, la séparation ne peut être que atrocement douloureuse. Mais, Dieu n'aime pas de la façon des hommes, son amour est inconditionnel, il est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière. Si Dieu nous aime, il nous aimera toujours. Il nous aimera pour toujours. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cette séparation ne pourra pas avoir lieu. Le chrétien est uni à Jésus. On l'a lu dans nos passages. Le chrétien est en Christ et Christ est en lui. Même plante, dit l'apôtre Paul. Donc, même plante avec le Sauveur, unie de façon définitive. Et Paul l'exprime, vous savez, dans la fin de l'épître aux Éphésiens, de cette façon-là. Nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. C'est un grand mystère. Ajoute l'apôtre Paul. Donc, l'union de Christ et du chrétien et du croyant et de son enfant est une union qui dure toujours. Rien ne pourra séparer cet amour-là. Et c'est ce que Paul a fait la démonstration et qu'on a écouté toutes ces semaines qui ont précédé. Nous séparer de quoi ? De l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quel est ce genre d'amour ? dont nous pouvons être séparés. Quelle est sa qualité? C'est intéressant de nous nourrir de cela. Cet amour est un amour qui se donne. Un amour qui se donne. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment donnerait-il pas toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Et quand on prend le repas du Seigneur, on se rappelle des paroles de Jésus qui a dit, prenez, mangez sans tous, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Dieu a tant aimé, il a donné. L'amour dont on ne peut être séparé est un amour qui s'est donné. Un amour désintéressé. Qui voudrait nous faire la lecture de la première aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. C'est un passage qui touche toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas croyantes, quand elles entendent la lecture de ce passage de 1 Corinthiens 13. On va lire que quelques versets, donc du verset 4 au verset 7. Sont bouleversés par ce texte. Qui voudrait le lire? Oui.
La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.
Oui. Un amour désintéressé. C'est un problème que nous avons, nous autres, les humains, c'est que on a parfois bien inconsciemment un amour qui est intéressé. On aime pour recevoir quelque chose, ou on aime parce qu'on reçoit quelque chose. Et l'amour de Dieu, l'amour dont il nous aime et dont on ne peut pas être séparé, c'est un amour qui est désintéressé, qui ne dépend pas de nous. On prend l'image des enfants avec des parents, et bien souvent les parents n'attendent rien des enfants. Ils les aiment parce que voilà, c'est comme ça, ils les aiment. Mais ils n'attendent pas qu'ils aillent travailler pour leur gagner de l'argent ou des choses comme ça. Dieu aime d'un amour qui est désintéressé. Ce qui n'est pas toujours facile pour nous. Et c'est un amour qui est intense, puissant, qui est sans prix. Je vous propose ce passage dans le Cantique des Cantiques qui est un petit peu la spécialisé, tout ce livre, dans la relation entre les hommes et les femmes, la relation d'amour entre un homme et une femme. Et donc la Sumanite conclut au chapitre 8 de cette façon-là, quand elle parle de l'amour. L'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves la submerger. Et même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour intense, un amour puissant, un amour sans prix, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dont nous ne pouvons être séparés, c'est l'amour qui vient de Dieu. Qui est Dieu? Alors, les théologiens ont recensé des attributs de Dieu, ce qui le caractérise. Et il y a 28, moi j'en ai 28 là, j'ai trouvé. et on peut les parcourir un peu. Dieu, un de ses traits, c'est l'indépendance. Il est indépendant, il n'a besoin de rien, ni de personne. Il se suffit à lui-même, ce qui est absolument pas notre cas. Nous, on a besoin absolument d'une multitude de choses pour survivre, mais lui, ce n'est pas son cas. Il est immuable, il ne change pas d'avis, il est éternel, il n'a pas de commencement, pas de fin, omniprésent, il est un, il est pas fractionné, il est tous ses attributs sont entièrement ensemble, en même temps il est amour, en même temps il est miséricordieux, en même temps il est grâce, en même temps il est patient, en même temps c'est un Dieu de justice, en même temps il est jaloux, en même temps c'est un Dieu qui est en colère contre le péché, c'est un Dieu qui n'est pas divisé, un Dieu qui est spirituel, invisible, omniscient, la science de tout, la sagesse, il sait parfaitement le meilleur moyen pour arriver à la meilleure fin, il est vrai, il est fidèle, il est bon, il est libre, il est tout puissant, il est parfait, il est bienheureux, il est beau, la beauté d'un de ses attributs. Alors, qu'est-ce que c'est la beauté de Dieu? Me direz-vous? Voilà une petite définition. La beauté de Dieu signifie qu'il possède toutes les qualités souhaitable. C'est la beauté de Dieu. Et sa gloire. La gloire de Dieu est l'éclat qui entoure la révélation de sa personne. L'amour de Dieu. On ne peut être séparé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est dans notre texte de Romains chapitre 8, il y a l'emploi de Dieu, il parle de l'amour de Dieu et l'amour de Christ. Et on voit que les deux termes sont interchangeables en fait. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dit-il au verset 15, qui nous séparera de l'amour de Christ, et il fait sa démonstration et il conclut, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Christ est Dieu. Jésus-Christ, et il ajoute, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour que le Seigneur nous porte ne fait pas de lui comme si c'est un ami, ce n'est pas un pote, ce n'est pas quelqu'un à qui on va frapper sur l'épaule. Hein. Vous connaissez la façon dont il s'est exprimé dans la chambre haute, Jean chapitre 15, versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le fait d'être ami de Dieu n'empêche pas qu'il est quand même Seigneur. Il est quand même le Seigneur. Il est celui à qui on doit obéissance. Jésus-Christ, notre Seigneur, termine ainsi l'apôtre Paul. Alors, quelles applications pour nous? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dit l'apôtre Jean. Et bien évidemment, l'amour de Dieu attend la réponse de notre amour à nous. Ça, c'est évident. J'avais insisté la semaine dernière sur la joie. On peut bien sûr se réjouir de cet amour que le Seigneur nous porte. On peut être tellement heureux de savoir que la situation qui a été celle d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden et la façon dont ils ont été séparés de Dieu ne peut plus se produire à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Cela ne peut plus arriver. Dieu veille à ce que nous soyons à l'abri de cela. Mais on a un problème quand même avec ce que toute la Bible, tout l'Ancien Testament, les Israélites ont eu un problème avec l'idolâtrie, c'est-à-dire la vénération d'un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et pour nous qui connaissons l'amour de Dieu en Jésus-Christ, comment comprendre que l'on puisse aimer quelque chose ou qu'on puisse aimer quelqu'un qui soit plus grand que Dieu? Qu'on puisse aimer quelque chose ou quelqu'un davantage, plus que Dieu. Alors, non seulement Dieu nous donne toutes choses pour notre bien, que nous apprécions, qui nous donne la satisfaction, de la joie, c'est lui qui nous les donne. Et quand on pense à nos enfants nous donnent de la joie, une très grande satisfaction. C'est Dieu qui nous les donne. Quand on se promène dans la nature, on voit, c'est merveilleux. Et tous les moments que nous pouvons passer et qui nous donnent tellement de joie, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Alors, combien celui qui est à l'origine et qui est capable de donner ça, combien est-il plus grand? Combien est-il une source de satisfaction supérieure? Supérieure à cela, infiniment supérieure. Et ce Dieu qui s'est donné à nous, en Jésus-Christ. Alors, Dieu nous aime en se donnant lui-même à nous. Est-ce que on pourrait trouver quelque chose qui nous donne plus, qui puisse nous donner plus de joie et plus de satisfaction que Dieu manifesté en Jésus-Christ? Mais hélas, il peut y avoir des choses qui volent cette place qui revient qu'à Dieu seul. Dans nos vies, on peut avoir et développer de l'affection pour ce qu'il nous donne ou ce que l'on se fabrique soi-même, qui deviennent à ce moment-là des idoles, des choses qui prennent la place qui revient qu'à Dieu seul. Et c'est un drame, et cela peut arriver dans nos vies. Mais quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, quand on comprend, et c'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, le don de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver, est-ce qu'on peut, il peut y avoir encore de la place pour de l'idolâtrie? Alors soyons vigilants dans nos vies que rien ne prenne la place qui est due à Dieu seul. Ça, c'est la première application. Et puis, aimer Dieu en retour. Luc a dit à la femme pécheresse qui était venue et qui essuyait ses cheveux, ses pieds avec ses cheveux, elle a beaucoup aimé parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. C'est le pardon qu'elle avait reçu, qui avait conduit cette femme qui était dans le péché, qui l'avait conduit à l'adoration de Jésus-Christ, à une très vive affection. L'amour de Dieu en retour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour, Dieu le verse en nous. Et vous avez sans doute entendu parler de cette image dans le pays du Seigneur, il y a deux mers. Bon, c'est pas des grandes mers, mais ils appelaient ça la mer de Galilée et la mer morte. Et il y a une différence fondamentale entre les deux mers. Toutes les deux reçoivent de l'eau. La mer de Galilée restitue cette eau. L'eau rentre d'un côté et ressort de l'autre. Et la mer morte, elle, reçoit de l'eau, mais l'eau ne rentre à l'intérieur de cette mer. Et puis, elle reste là. Tout s'évapore, disparaît. Et la mer de Galilée est une bénédiction. Elle fournit des poissons, elle est très poissonneuse. Et la mer morte, elle, comme son nom l'indique, est morte. On ne peut absolument rien faire avec cette eau. Alors, c'est une bonne image que l'amour qui est déversé dans nos cœurs, qui doit ressortir quelque part. Il faut que ça ressorte. Il faut que ça remonte vers Dieu et il faut que ça aille vers les autres. Aimer Dieu en retour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ainsi que résumé tout l'Ancien Testament, Jésus, et en ajoutant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On aime Dieu en retour et on aime son prochain en retour. Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous que vous connaîtront que vous avez, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer, c'est se donner nous aussi. Il y a aussi ce Dieu s'est donné, mais nous aussi, en retour, on est appelé à se donner. Cet amour nous entraîne à faire le don de nous-mêmes. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean 3, 16. Je vais faire la lecture de 1 Jean 4, 9 à 11. C'est aimer, c'est se donner et c'est aimer également sans être aimé. Il n'y a pas de réciprocité parce que on aime avant qu'on aime Dieu, avant que Dieu nous qu'on comprenne l'amour de Dieu pour nous, on ne l'aimait pas. L'amour s'est développé parce que Dieu nous a aimés d'abord. Et Dieu attend, nous aussi, que nous aimions nos frères et sœurs sans qu'ils nous aiment. Sans qu'ils nous aiment au préalable. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. C'est pas du tout l'amour qui vient de Dieu. C'est la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 à 11. Des textes qui sont magnifiques. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, bien-aimés. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, aimer sans être aimé soi-même de la part de nos frères et de nos sœurs. Et c'est ce que le Seigneur a enseigné aussi. Il a dit, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Si vous aimez vos ennemis, vous allez leur faire connaître l'amour de Dieu et ils vont pouvoir recevoir cet amour et ils vont pouvoir changer. Et ils vont pouvoir être transformés par cet amour. Alors, je vous propose qu'on chante quelques chants. Notre recueil de chants est rempli de ce thème, de l'amour de Dieu, de son amour pour nous, et le fait pour toujours, hein, qu'il est pour toujours et tellement précieux. Alors, je vais prier pour terminer et puis on va chanter les chants. Vous pouvez en chercher. Moi, j'ai noté « À Dieu soit la gloire, ton amour nous environne. » Le 48 « Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. » Le 102 « Ton grand amour, merveilleux, si merveilleux, et l'amour de Dieu, 126 « Rédempteur adorable, sur la croix attachée, 201, 211, quand je contemple cette croix où Jésus mourut pour moi. 217, quand j'ai vu tes mains percées par le clou. Viens m'apprendre à t'aimer, 223, 301, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, plus puissant que la mort. Mon sauveur m'aime. Quand les montagnes s'éloigneraient, ô Jésus, je me repose de ce que je sais de toi. Chaîne d'amour, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. C'est un lien d'amour. Je vais prier. Notre Père Céleste, merci pour le si grand amour dont tu nous as aimés. Maintenant, je m'adresse à toi, mais je sais que mes frères et mes sœurs pourraient le faire de façon tellement plus profonde et tellement plus... certainement authentique que moi. Et Seigneur, nous voulons te dire donc ensemble que nous t'aimons. Nous sommes heureux de ce que tu nous as aimés. Nous voulons te demander, Seigneur, que cet amour ne soit pas, qui est toujours là, qui peut toujours être déversé en nous, et que tu déverses toujours en nous, ne reste pas là, mais qu'il aille atteindre ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que nous ne fermions pas le robinet de ton amour, mais que nous le laissions couler en nous et déborder sans limite. Merci, Seigneur, pour la certitude que nous avons, que jamais nous ne serons séparés de toi. Merci pour l'acte magnifique de Jésus-Christ à la croix. Il a tout accompli pour cela. Et notre reconnaissance et notre louange est pour l'éternité. Jamais nous ne cesserons de le dire et de dire la façon dont nous l'aimons. Merci Seigneur. Prends soin de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, quel chant vous auriez envie de chanter ?